This is CKCU Literary News. Voici les actualités littéraires dans le monde francophone. Au microphone, Hans-George Ruprecht.
Bonjour. Dans l'espace global de la francophonie, qui s'étend, on le sait, sur 5 continents, force est de voir non seulement l'étonnante diversité des aires culturelles, mais il va falloir prendre acte aussi, c'est sûr, et de la complexité et de ce qui différencie les champs littéraires qui sont constitutifs de ces aires culturelles. C'est particulièrement juste en ce qui concerne les champs littéraires des pays africains, qui sont, faut-il le dire encore, d'une fascinante productivité de champs poétiques, de paroles et écritures, de textes et de livres. Cela augmente considérablement ce que l'on pourrait appeler avec Pierre Bourdieu le capital symbolique des peuples africains. Comment ça? Pour en savoir plus, nous vous proposons d'écouter tout le long de l'année une série d'entrevues avec des écrivains et poètes vivant en Afrique ou étant originaires de ce vaste continent qui vivent présentement aussi en Europe. Ces entrevues ont été conçues et seront réalisées par Antoine Oulu-Garcia, notre correspondant littéraire et collaborateur accrédité qui est établi à Paris, auteur d'un ouvrage important intitulé « Métamorphose de la poésie » paru en 2013 aux éditions La Cheminante, Antoine Oulu-Garcia est spécialiste de poésie contemporaine, notamment africaine. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de l'accueillir, lui souhaitant la bienvenue au studio de CKCU FM 93,1 de la radio communautaire au campus de Carleton University à Ottawa. Notre nouvelle série s'ouvre aujourd'hui sur l'œuvre du poète sénégalais Hamidou Sall, auteur de Rhapsodie fluviale paru en 2010 et d'un livre d'entretien intitulé Correspondance du cœur paru en 2011. Et dans un proche avenir, seront diffusées les entrevues avec Marc-Alexandre Obam, qui s'est défini poète camerounais du monde. Par la suite, nous vous proposons, toujours en direct, en continu sur Internet, par balado-diffusion, podcast, ainsi qu'à partir de notre liste de lecture automatique « Playlist », des fichiers tels que diffusés, une entrevue avec l'écrivain essayiste Léandre Saïri, qui est originaire de la Côte d'Ivoire et qui est déjà très bien connu au Québec, du temps de son enseignement à l'Université de Montréal à titre de professeur invité. Et maintenant, voici donc Antoine Oulu-Garcia à Paris.
Il était une fois le maître tisseur, El Hadj Abdoul Hamidou Sall, seul capable de fabriquer cette étoffe, peut-être parce qu'il est poète et savant des grands fleuves. Il était une fois ce livre, à nul autre pareil. Voici ce que dit l'académicien Eric Orsena de notre invité du jour et de son dernier ouvrage, Les circonstances du cœur, publié aux éditions de La Cheminante. Hamidou Sall, bonjour et merci de nous accueillir dans votre bureau au sein de ce lieu prestigieux qu'est l'Organisation internationale de la francophonie, où vous êtes le bras droit du président Abdou Diouf. Mais avant d'être un homme d'organisation, avant d'être un homme de discours, vous êtes un poète. Hamidou Sall, pour vous, qu'est-ce qu'un poète?
S'il me fallait répondre à cette question, je me blottirais dans la sagesse consistant à donner la parole à d'autres grands noms, d'autres grandes voix qui, elles, ont déjà eu à répondre à cette question. Je me tournerai vers Rimbaud, qui dit que le poète est un voyant, c'est-à-dire celui qui est conçu pour voir et sentir ce que les autres hommes ne voient pas. Et s'il me fallait également faire appel à Hugo, ensemble nous l'entendrions nous dire que le poète est un prophète. C'est celui qui, en des jours impies, vient préparer l'avenir. Donc il y a cette notion de prophétie, se voyant. En fait, la poésie est une parole devancière. C'est une parole devancière, c'est une parole essentielle, et c'est une parole qui dit le monde également.
Donc en ce sens, quelle est votre manière de dire le monde? Quelle est votre manière de dire le monde de l'avenir?
Pour dire le monde, il faut d'abord le saisir, il faut le connaître, il faut le vivre, il faut l'habiter. D'où toute la sensibilité du poète. Le poète est cet homme sensible. Le poète est cet homme qui est attentif. Le poète est cet homme qui est à la fois vieux et jeune, ancien et neuf, et qui accompagne de son regard un monde. Et c'est en cela que, quand il se lance dans cette activité de création, la parole poétique qui surgit, c'est une parole fugace, mais précieuse, de l'essentiel, puisqu'elle traduit cet essentiel-là.
Donc le poète à la fois synthétise le monde à travers ses yeux, finalement, à travers l'étude qu'il peut en faire au quotidien, et il le crée de la même manière à travers les mots qu'il met en place.
Exactement, exactement. Et c'est en cela que ces mots ne sont pas décalés de cette réalité. C'est en cela que la poésie n'est pas simplement un verbiage hors du monde et hors du temps qui plane et qui... Voilà, là, c'est une parole qui s'ancre dans une réalité. Et c'est bien en cela que la poésie vise à exprimer aussi toute l'épaisseur du monde. Donc c'est pas une parole gratuite, c'est une parole... qui s'ancre dans une réalité.
Et donc, au-delà d'être une parole effectivement très forte, c'est une parole également moderne, d'après ce que vous dites. On n'est pas dans quelque chose de très ancien et finalement de suranné.
Non, non, c'est le monde qui est ancien. Ce sont les problématiques qui peut-être changent de forme, mais qui accompagnent l'humaine condition. C'est l'homme depuis la nuit des temps, selon les espaces, les époques, etc. Et la poésie accompagne cette évolution du monde. Donc elle ne s'exprime certes pas de la même manière à tous les temps, mais elle s'exprime de la même manière dans une certaine forme de continuité par rapport à sa préoccupation.
Alors, puisque nous parlions finalement d'une perspective historique, Midoussa, je voudrais rappeler que vous avez publié un très beau recueil intitulé Rhapsodie fluviale, dans lequel vous évoquez l'importance dans votre vie du fleuve Sénégal, mais aussi de nombreux fleuves d'Europe. Vos poèmes ainsi jettent des ponts par-dessus ces fleuves, reliant les hommes de plusieurs continents à travers un humanisme dont vous semblez profondément imprégné. Pensez-vous donc que la poésie soit un moyen crédible de relier les hommes grâce à la beauté dans un monde qui est globalisé et parfois même déshumanisé?
Oui, ça nous ramène à ce que je venais de dire tantôt, quand je faisais allusion à l'humaine condition. Espace, lieu, temps, diversité, aux quatre coins du monde, depuis la nuit des temps, l'homme. Donc notre regard se fige sur l'homme. Donc pour moi, la meilleure manière d'aller ailleurs, c'est de partir de quelque part. Donc ce quelque part, moi, c'est mon fleuve, comme vous dites, mon fleuve ancestral, cette terre ancestrale, à partir de laquelle je suis allé vers les autres. C'est un peu mon promontoire, à partir duquel j'observe et à partir duquel je vais vers les autres. J'ai chanté, comme vous dites dans Rhapsodie fluviale, un fleuve. Ce fleuve éponyme qui a donné à mon pays son nom, fleuve Sénégal. Il se trouve que c'est sur les bords de ce fleuve que s'est levée ma lignée. C'est donc le fleuve de la terre primordiale. Bon, vous savez que pour moi, ce fleuve qui est si présent, qui m'accompagne partout, c'est aussi, dans une certaine mesure, un fleuve rêvé. Puisque je ne suis pas né sur les bords de ce fleuve, je n'ai pas grandi sur les bords de ce fleuve. Quand je l'évoque un peu avec une pointe de nostalgie de quelque chose que je n'ai pas véritablement connu. mais que je connais quand même parce que j'ai grandi dans le culte, dans l'évocation de ce fleuve ancestral, puisque mes parents ont toujours parlé de ce fleuve, et finalement, parce qu'il était un fleuve rêvé, tous mes efforts ont tendu à aller vers ce fleuve. Et ce fleuve, tous les autres fleuves, je les vois comme le prolongement de mon fleuve ancestral.
Ce fleuve ancestral, ce maillot, est-il donc une maillotique ?
Ce fleuve, il l'est en ce qu'il me permet, une fois intériorisé, d'intérioriser tous les autres fleuves, d'intérioriser et d'extérioriser aussi tous les autres fleuves. Parce que c'est par ce fleuve que je ne connais pas que je suis allé vers les fleuves. Bon, je ne peux pas, moi, faire comme Hölderlin, n'est-ce pas, qui lui a vécu à côté de son Neckar, qui le connaît, qui l'habitait, qui connaît tous les vallons, tout son terroir. Moi, c'est un peu différent. Et c'est justement parce que je ne l'ai pas eu, mais que je sais que fondamentalement, il est mien, puisqu'il structure ma pensée, mon vécu, le limon du fond de ce fleuve est partie intégrante de ma chair. Donc ce fleuve, on ne peut pas me détacher de ce fleuve-là. Et c'est par ce fleuve que je vais vers les autres fleuves, que ce soit le fleuve du Niger, que ce soit ici en France où je vis, la Seine, la Loire, le Rhône et la Garonne, que ce soit le Rhin. Voilà, c'est donc tous ces fleuves, tant de fois chantés par les grands créateurs, qui m'a poussé aussi à découvrir d'autres poètes qui ont salué les fleuves, fussent-ils des fleuves rêvés ou réels, n'est-ce pas ?
Alors, vous êtes donc clairement un enfant du fleuve, que ce fleuve soit mythique, soit réel. Vous êtes également un fils spirituel de la Grèce antique, et plus précisément de l'Athènes du 5e siècle. Et c'est ainsi que vous rendez un très bel hommage à la grande helléniste Jacqueline de Romilly dans vos circonstances du cœur. Quel est l'intérêt aujourd'hui ? On peut véritablement se poser la question, quitte à être un petit peu dérangeant, alors que les études classiques de latin et de grec sont en perte de vitesse, quel est l'intérêt pour vous de nous ramener, nous les lecteurs, à cette Athènes qui vous est si chère ?
Je viens de mon lointain Sénégal. Et notre rencontre a lieu ici, à deux pas des bords de la Seine. Cette Seine qui coupe Paris, qui arrose Paris, si loin de mon maillot ancestral, si loin de ma terre natale. Et nous nous retrouvons sur une terre commune qui s'appelle le français. Nous l'habitons ensemble. Et c'est par cette langue française que nous communiquons, vous et moi, pour partager nos échanges avec de nombreux autres auditeurs. D'où l'importance de la langue. Or, cette langue, si pour vous elle est langue maternelle, pour moi elle est langue d'acquisition. Et c'est par l'école que j'ai acquis cette langue, puisqu'elle n'est pas ma langue maternelle. Mais nous l'habitons ensemble, et cette langue, et cette culture qui est derrière cette langue, la culture française, c'est ce qu'elle doit à la culture ancienne, à la culture grecque. Or, dans la sagesse de ma culture, il est un merveilleux proverbe qui dit « Si tu ne sais plus où tu vas, retourne au moins d'où tu viens. » D'où l'importance de la source. Or, la matrice de cette culture, la matrice de cette langue, de cette culture occidentale française, c'est bien ce petit bout de terre entre les îles de la côte ionienne et la mer Égée, magnifiquement porté et incarné par l'Athènes du 5e siècle, période d'apogée extraordinaire sur tous les plans, les tragiques, les philosophes, les hommes d'État lumineux, les artistes, etc. C'est cette Grèce qui me fascine. Elle me fascine par son message et par son actualité. Parce que l'Athènes du 5e siècle, avant Jésus-Christ, pour arriver à nous, c'est quand même 2500 ans. Or, traversant époque, siècle, millénaire et temps, le message qu'ils ont envoyé reste encore d'une brûlante actualité. D'une telle actualité que quelquefois dans ce monde qui vacille, quand nous perdons nos repères, nous allons puiser force et racines dans cette Grèce antique. C'est dire donc la solidité du message. Or, moi je reste convaincu que l'enseignement de ces langues classiques, ces langues à tort dites mortes, reste quelque chose de tonifiant pour mieux comprendre d'abord l'universel. L'universel, parce que si moi qui viens du fin fond de l'Afrique, le message de Périclès me touche, c'est parce que Périclès, en s'adressant aux siens, a pensé également s'adresser à d'autres semblables aux siens. D'où, d'ailleurs, le fameux message de Thucydide, qui dit qu'il voudrait que son histoire serve à comprendre les événements qui, à cause de leur caractère humain, pourraient, n'est-ce pas, être comparables à ceux qu'il a vécu et qu'il décrit dans la guerre du Péloponnèse. Voilà donc comment moi j'explique cette importance, l'importance de l'attachement et cette nécessité de ne jamais quitter ces terres si fertiles et si porteuses du monde. Voilà, et puis bon, c'est cette Grèce qui nous a offert de merveilleux tragiques, Échille, Sophocle, Euripide, mais c'est aussi Pindare, puisqu'on est dans la poésie, ils nous ont offert ces merveilleuses plumes. Bon, naturellement, je n'oublie pas Homère, puisque c'est par là qu'il faut commencer. Voilà.
Vous êtes donc un véritable citoyen du monde, comme aurait dit Diogène. Et n'oublions pas que la Grèce, en plus effectivement de ses merveilleux tragiques, nous a apporté cette notion de la démocratie, même si elle a beaucoup évolué depuis. Mais quand on parcourt une anthologie de la poésie africaine, on constate que nombre de poètes se sont engagés en politique, au point que beaucoup d'entre eux ont accédé à des fonctions ministérielles. Et finalement, dans cette perspective de cette Grèce démocratique, je pense... Vous avez dit tout à l'heure que le français était une langue d'acquisition. C'était le cas également pour Senghor, premier président du Sénégal et grand poète. Césaire également, que vous avez bien connu, a été poète et homme politique. Vous avez fait la moitié du chemin en devenant un poète reconnu. Alors, désormais, qu'en est-il de votre engagement politique ?
Mon engagement politique, je le vis dans une citoyenneté qui trouve d'ailleurs sa source dans ce merveilleux mot à nous offert justement par la Grèce, politiquer. La politiquer avec un P majuscule, c'est-à-dire le souci des affaires de la cité. Donc sous ce rapport, que nous soyons attachés dans un lien partisan parce que nous sommes sur le terrain ou pas, nous sommes habités par la politique. Donc, pour moi, écrire de la poésie pour conscientiser mon peuple ou traduire mes réalités, c'est un acte d'engagement, c'est un acte citoyen, c'est un acte politique. Bon, maintenant, en Grèce, Athènes, l'Apnix pouvait rassembler le peuple d'Athènes, la plaine de l'Apnix. Bon, parce qu'à l'époque, bon, c'était des petites cités. Bon, aujourd'hui... Avec le développement de la démocratie, tout le monde, quand hier à Athènes, tout le monde s'exprimait. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être du haut de la tribune, tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde, voilà. Donc moi, ce que je veux simplement dire, c'est que avoir le souci des miens, avoir le sens de la responsabilité, de l'éthique de la responsabilité, de savoir également que je peux servir mon pays. Voilà un peu mon engagement politique. Mon engagement, il est politique, il n'est pas politicien. Il n'est pas politicien. Et puis, bon, j'estime que à chaque fois que les hommes qui sont sur le terrain politique s'acquitteront d'une manière satisfaisante des préoccupations du peuple sénégalais, ben, je peux rester à côté, regarder, suivre, applaudir. Ou m'indigner quand ils ne sont pas à la hauteur ou bien quand ils passent complètement à côté. Ce que j'ai déjà fait d'ailleurs dans le passé. Bon, mais bon, quant à moi-même, voilà, pour le moment je me cherche. Voilà, je ne sais pas encore.
Mais vous avez tout en vous cherchant, déjà écrit de très belles contributions politiques sur l'éducation et la culture, notamment au Sénégal. Pour conclure cette interview, je vous avais demandé de choisir un poème que vous pourriez nous faire partager. Pouvez-vous nous lire un poème de Rhapsodie Fluviale ?
Dans l'abîme des nuits blanches de ma souffrance rebelle, la toujours tempête du feu de mon sang répandu, douleur de la souffrance de mon peuple vomue sur de négriers, douleur indicible, douleur extrême, douleur suprême. Nuit noire de ma race noire dans la cale noire de l'ignominie de l'homme. Errance non errante de mon peuple livré à l'appétit féroce des mangeurs d'âmes et buveurs de sang frais de l'innocence. La traversée est longue et le marin maître à bord tantôt s'ennuie. Son oreille a soif du râle dernier d'un braillard pendu. Son oreille a soif du léger clapotis de l'eau par le bruit d'un gueulard qu'on jette à la mer. La route est longue sur le vaste océan. La cale craque d'hommes nourris d'insultes. Homme à tuer pour tuer le temps et vaincre l'ennui avant pied à terre sur l'autre rive.
Bien cher Hamidou Sall, merci beaucoup pour ce beau moment de poésie qui conclut notre entretien. Je rappelle que vous avez publié Rhapsodie fluviale et Circonstances du cœur aux éditions de La Cheminante, deux ouvrages que je recommande vivement à nos auditeurs. Merci à vous justement les auditeurs sans qui notre émission ne pourrait exister. Je vous dis à très bientôt sur nos ondes. Merci.
Merci.
Pour CKCU Literary News, Antonello Garcia à Paris.
De la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était Les actualités littéraires dans le monde francophone. Une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire.